Emmanuel Bove, La Coalition. Chapitre 1. AU2S. En arrivant à Paris, Madame Louise Aftalion, qui était accompagnée de son fils Nicolas, se fit aussitôt conduire chez sa sœur, Thérèse Coquerel, qu'elle avait perdue de vue depuis plus de 15 ans. Celle-ci occupait, avec son mari, tout près de l'école militaire, un appartement de 6 pièces situé au 5e étage d'un vieil immeuble, où le propriétaire, à la fois par goût de rajeunissement et esprit de lucre, faisait installer le confort moderne au fur et à mesure que les appartements étaient vacants, aux fins de doubler les loyers. Ils étaient ridiculement modestes. Ainsi, l'appartement des Coquerel, dont presque toutes les fenêtres donnaient sur l'avenue Bosquet, était d'un loyer annuel de 2000 francs. Thérèse y avait fait installer une salle de bain dans un cabinet de débarras. Comme il n'y avait aucune fenêtre, en quelques secondes, la vapeur ternissait les glaces, cependant qu'un nuage s'amoncelait sous le plafond. Le salon se trouvait à un angle de la maison. À cause de cela, ainsi que des longues fenêtres qui descendaient jusqu'au plancher, il était glacial en hiver. Tout ce qui se trouvait dans cette pièce avait une allure provinciale. Un album de photographies à fermeture de cuivre était posé sur une console. Pour l'emplir, Benjamin, le mari de Thérèse, y avait adjoint des cartes postales, des vues qu'il découpait en dedans, afin qu'aucun liséré blanc n'en trahît l'origine. Partout traînaient des coquillages, des clochettes, des souvenirs de plage. Deux portraits de Madame Perrier, la mère de Thérèse Coquerel et de Louise Aftalion, ornaient les murs. Le pinceau de Bilia savait capter la ressemblance. Bilia, un ami des parents des deux sœurs, était en effet l'auteur de ces portraits. Il avait été l'artiste immiscé dans une famille, l'artiste dont les Perriers s'enquéraient auprès de tous de la qualité de sa renommée, dont ils cherchaient le nom dans les courriers des arts, dont ils allaient admirer les œuvres aux expositions. Le père n'avait jamais voulu poser, sous prétexte qu'il était laid. « Ton expression est trop particulière pour que je puisse te réussir d'après photographie, » disait Bilia. Et tous les ans, il refaisait le portrait de Madame Perrier. Le peintre habitait alors un grand atelier à Passy, où souvent la famille Perrier allait le visiter, non sans que 1000 recommandations n'eussent auparavant enjoint les enfants, Thérèse, Louise, Charles et Marc, à ne toucher à rien. C'était une fête de se rendre chez le peintre. Madame Perrier ne manquait jamais de monter dans sa chambre, aménagée dans la soupente, et, accoudée sur la balustrade, de regarder avec admiration l'atelier qu'elle surplombait. Les murs étaient couverts de toiles, de visages de plâtre qu'elle croyait moulés sur des morts, de pochades, comme disait Bilia de ses paysages et croquis. Du salon, on passait, par deux portes qu'un dispositif faisait mouvoir en même temps, dans la salle à manger toute lambrissée et dont le plafond était décoré de caissons auxquels les peintres avaient donné le ton et les nervures du chêne. Après avoir suivi un long couloir sur lequel donnait la cuisine et le réduit où était aménagée la salle de bain, on pénétrait dans la chambre à coucher. La lumière, traversant de multiples stores, rideaux, tentures, était douce et rendait cette pièce intime. On devinait que, là, Benjamin devait changer d'esprit, oublier ses soucis et se plaire à des occupations enfantines. La pièce voisine était celle de la fille des Coquerel, Edmonde, qui ne l'habitait d'ailleurs pas, car elle était dans un lycée de Saint-Germain. Quant à la dernière chambre, qui servait ordinairement de cabinet de débarras, elle avait été aménagée pour recevoir les Aftalion. La bonne avait transporté un divan du grenier pour Nicolas. Un paravent le dissimulait. Dans un placard, une table de toilette de fer, semblable à celle des hôpitaux, avait été enfermée. Comme le brodeau n'entrait pas dans ce placard à cause des pieds de la table en forme d'arceau, il avait été caché dans un coin de la pièce et recouvert d'une serviette. Thérèse s'était mariée, peu après la mort de son père, avec le secrétaire de celui-ci. Un an après, elle avait eu sa fille Edmonde et était venue habiter cet appartement où Benjamin était né et ses parents morts. Aigrie par une vie sans événement, elle vouait à sa sœur cadette une haine profonde. « Je ne suis pas mauvaise, disait-elle, mais je souhaiterais qu'il lui arrivât quelque chose. Cela lui apprendra à réfléchir. » En effet, elle n'était pas méchante. Il lui arrivait souvent de s'apitoyer sur le sort des malheureux. Sincèrement, elle désirait leur venir en aide. Mais il y avait toujours quelque chose qui lui paraissait l'en empêcher réellement. Elle défendait âprement son mari. Elle était égoïste, mais pour lui également. Elle vivait en lui avec autant de force qu'en elle-même. C'est ainsi qu'avant de sortir, elle portait sur ses vêtements la même attention que sur les siens. Elle lui préparait des plats compliqués, le prenait par le bras dès qu'il se trouvait dehors, parfois même à la maison pour passer d'une pièce à l'autre. Elle voulait que les autres femmes lui enviassent cet homme. Elle avait une façon de les regarder en se serrant contre lui qui semblait dire « C'est un mari sérieux, il n'est pas pour vous ». Quand, assise dans leur automobile, elle attendait que Benjamin eût fini de mettre de l'essence, elle éprouvait une satisfaction profonde à le voir occupé et si peu attentif aux gens qui passaient. Le dimanche, elle le consacrait en partie à s'habiller. Lorsqu'elle était prête, elle sortait avec Benjamin et tous deux allaient écouter la musique dans un café des boulevards. Son mari, c'était l'homme. Il était plus grand et plus fort encore qu'elle. À chaque instant, elle se plaisait à le constater et aussi à lui reprocher de mettre ses cendres de cigarettes partout, de n'avoir point d'ordre, ce qui l'amenait à dire « Comme c'est désordre, un homme !» de ne pas savoir préparer ses repas, ni coudre, d'user ses vêtements plus rapidement qu'elle. « C'est fou comme tu uses, il faudra que je t'achète des souliers de fer !» Deux fois par semaine, ils allaient au théâtre et soupaient après la représentation. Les veilles de fête, ils dînaient dans de grands restaurants où ils arrivaient, l'un sanglé dans une jaquette, l'autre étincelante de pierres, vraies ou fausses, mêlées. Parfois, ils recevaient des amis. C'étaient des repas qui n'en finissaient plus, au cours desquels elle parlait sans interruption, se fâchait, s'excitait au point qu'à la fin de la soirée, elle était si nerveuse qu'elle ne savait plus ce qu'elle disait. Benjamin était plus calme. Pourtant, il ne lui venait pas à l'idée de se formaliser des écarts de sa femme. Au contraire, cette exubérance et cette agitation lui plaisaient. Continuellement, il semblait dire « Ma femme n'est pas la première venue !» Sous sa neutralité, on devinait qu'il n'intervenait que dans les cas extrêmes. Il avait quelque chose de ces hommes placides et forts par lesquels on se fait accompagner au mauvais rendez-vous et qui, comme tombés du ciel, ne sachant quoi faire de leurs mains, attendent un signe pour vous défendre. La veille de l'arrivée des Daftalions, il avait longuement parlé d'eux à sa femme. Il voulait qu'on ne pût lui faire le moindre reproche et que tout se passât selon les règles de l'hospitalité. Le sentiment qu'il avait à leur endroit était assez complexe. « Je ne peux pas me faire une opinion avant de les voir », répétait-il depuis plusieurs jours. En effet, il se faisait un point d'honneur à ne point les juger d'avance. La curiosité l'amenait, cependant, à poser de nombreuses questions à Thérèse. « Enfin, explique-moi comment ils sont. »«
C'est trop compliqué, tu les verras », répondait Madame Coquerel.
Elle s'appliquait à n'omettre aucun détail, de façon que plus tard, tous les torts fussent du côté des Daftalions. La sollicitation de sa sœur faisait qu'elle pensait obscurément « Je suis vengée !» sans pourtant prononcer ces mots qui eussent été trop forts. Ce n'était que l'ombre pâle de cette phrase qui se mouvait dans le fond de son cerveau.
« Il y a tout de même une justice !» disait-elle à tout moment.
Elle avait déjà arrêté son attitude. Elle se montrerait généreuse et bonne envers celle qu'elle avait tant enviée, mais chaque fois que l'occasion se présenterait, elle placerait une petite observation méchante. À peine les Daftalions eurent-ils sonné que Thérèse appela son mari et lui dit de venir au salon. Elle s'assit immédiatement et, prenant un livre, fit semblant de lire. Benjamin, s'approchant d'une fenêtre, les mains dans les poches, s'appliqua à regarder avec intérêt le va-et-vient de l'avenue. Quelques secondes après, la bonne introduisait les Daftalions qui, embarrassés, attendaient une bonne parole. Soudain, Thérèse se leva et, courant au-devant de sa sœur, l'embrassa longuement, cependant que son mari serrait avec force la main de Nicolas.
« Asseyez-vous tous les deux, il y a une éternité que nous ne nous sommes vus. Que tu es changée, Louise, et qu'il est grand, ton fils. Edmond ne lui viendrait pas aux épaules. »
Cette différence de taille humilia une seconde durant Thérèse qui se rappela tout à coup qu'elle était d'une année plus âgée que sa sœur. «
Mais c'est une fille !» observa Benjamin. Qu'il est grand, mon neveu, on dirait un homme. »
Nicolas baissa les yeux. M. Coquerel le regarda des pieds à la tête.
« C'est un gaillard, tout d'une pièce. »
« Et il est très bon pour sa mère, fit Louise, n'est-ce pas, Nicolas ?»
Tout le monde s'assit, sauf Benjamin qui, les mains derrière le dos, s'efforçait de prendre l'attitude d'un homme qui s'est distrait quelques instants de ses occupations pour faire plaisir à sa femme. Un silence se fit. Il se tourna et caressa du bout du doigt l'anse sculptée d'un vase pour en sentir le relief. Thérèse jouait avec son collier qui était si long qu'une fronde.
« Alors, tu as fait bon voyage ? » demanda-t-elle à sa sœur.
« Nous avons eu la chance d'avoir les coins. »«
Tant mieux. Vous avez pu dormir ?»«
Nicolas a dormi. Moi, je ne peux pas comme cela dans un train. »«
Tu n'as pas changé. Toujours aussi délicate. Je vais te faire du thé. Quand on est fatigué, il faut boire chaud. »
Benjamin s'était approché de Nicolas. Il tourna un moment autour de lui et, finalement, lui adressa la parole.
« C'est la première fois que vous venez à Paris ?»«
J'y suis né, monsieur. J'ai même été à l'école ici. »«
C'est vrai, j'oubliais. Vous êtes un Parisien. »«
Et vous êtes content d'être revenu ?»«
Je suis très content. Je me souviens vaguement de quelques rues. J'aimerais bien les revoir. »«
Je comprends cela. C'est toujours amusant de revoir un endroit après des années d'absence. »« Quand j'étais mobilisé, je pensais souvent à cette avenue, à ce quartier. » Et je vous assure que cela me faisait quelque chose quand je venais en permission. Mais alors, on n'était pas sûr de revenir.
À ce moment, Nicolas entendit sa mère qui disait à Thérèse « Il cherche une situation. »
Il se tourna. Benjamin l'imita et dit « On parle de situation ?»«
C'est le jeune homme, » dit Thérèse en désignant son neveu. « Il cherche une situation. » ajouta-t-elle en fixant son regard sur son mari avec une insistance telle que Nicolas sentit qu'elle ne faisait que répéter une phrase qu'elle avait sans doute prononcée de nombreuses fois, seule à seule avec Benjamin.
« Ah, vous cherchez une situation ?
Il faudrait que je travaille. »
« Évidemment, cela vaudrait mieux. Mais savez-vous ce que vous voulez faire ?»«
Une place de secrétaire, » fit Madame Aftalion.
« Secrétaire de quoi ?»
« Je ne sais pas, » répondit Nicolas.
« D'un homme politique, par exemple, » continua sa mère.
« Eh, vous n'y allez pas doucement. Vous croyez que cela se trouve comme cela ? D'ailleurs, entre nous, il ne gagnerait rien. »«
Qu'en sais-tu ? » fit Thérèse pour pousser son mari à continuer.
« Si je le dis, c'est que je le sais. Souviens-toi du petit Gérard, le mal qu'il a eu. »«
C'est vrai, tu as raison. »
Puis, se tournant vers sa sœur, « Mon mari est en relation avec une foule de gens. S'il dit non, c'est que c'est non. Tu ne devrais pas, Louise, te mettre des idées comme cela dans la tête. »«
Vraiment, vous vouliez être secrétaire d'un homme politique ?» demanda Benjamin, qui de nouveau s'était approché de Nicolas.
« Pas particulièrement. »«
Enfin, vous avez bien une idée ?
Il faut avoir une idée. Il faut savoir ce que l'on veut. Il y a des cas, je l'admets, où des gens réussissent, on ne sait trop comment. » Mais c'est l'exception. Un conseil, ne comptez pas là-dessus. La chance, on la prend quand elle vient, mais on s'en passe quand elle ne vient pas. Et on ne s'en porte pas plus mal. Cela me gêne de me poser en exemple, mais tenez, moi, je n'ai jamais eu de chance.
« Tu ne devrais pas dire cela, Benjamin, » interrompit Thérèse. « Tu n'as pas à te plaindre. »
« Laisse-moi finir. Je dis que je n'ai jamais eu de chance, et c'est la vérité. » Sais-tu ce que c'est que la chance ? Regarde les Vidal, eux, ils ont de la chance.
Je te dis que tu as de la chance, continua Thérèse, qui tenait absolument à marquer la différence qu'il y avait entre sa situation et celle de Madame Aftalion.
Monsieur Coquerel devina tout à coup le désir de sa femme.
Évidemment, reprit-il aussitôt, à côté de certains, j'ai de la chance. Je parlais de réussites exceptionnelles.
Il ne faut pas te baser là-dessus aussi. »
Après avoir bavardé ainsi durant une heure, sans qu'une seule fois la conversation prît un tour plus amical, les Coquerel conduisirent Madame Aftalion et son fils dans la chambre qu'il leur avait préparée.
« Ton lit, c'est le grand, » fit Thérèse à sa sœur. « Ton fils dormira sur le divan. Ma fille a longtemps couché dessus. »«
Je vous laisse, » dit Benjamin. « Il faut tout de même que je travaille. » À peine se fut-il éclipsé que Madame Coquerel observa. « Quel bûcheur, Benjamin! Tu as remarqué, il n'était pas à son aise. Tu verras ce soir comme il sera plus gai. Le matin, s'il ne travaille pas, il est comme perdu. Et il travaille, tu sais. Cela ne consiste pas à faire de la présence. Il faut qu'il dirige, qu'il donne des ordres. C'est lui qui a toute la responsabilité. Avant, on lui téléphonait même chez nous, dans notre appartement. Je n'ai plus voulu cela. Je lui ai dit, « Travaille, c'est entendu, mais une fois chez toi, repose-toi. Pour ton fils, c'est le meilleur exemple. » « Tu entends, Nicolas ?» fit Madame Astalion pour plaire à sa sœur. « Bien sûr. »« Mais oui, prenez l'exemple sur lui, » fit d'un trait Thérèse que la réponse de son neveu avait légèrement froissé. « Il est plus vieux que vous, on peut prendre exemple sur lui. Il y en a qui le font. » « Je ne dis pas le contraire. » Cette phrase, Nicolas l'avait peut-être prononcée 100 000 fois dans sa vie. Elle était aussi fréquente sur ses lèvres que merci ou pardon. Elle sortait machinalement de sa bouche. Quand on lui parlait, il s'en servait à tout moment pour répondre. « Il ne manquerait plus que cela que vous disiez le contraire. » Puis, se tournant vers sa sœur, Thérèse continua à voix basse. « Mais comment l'as-tu élevée ? Tu lui permets de répondre ainsi ? Tu verras ce que je te dis, vous aurez des histoires. » Chaque jour, la vie chez les Coquerel devenait plus pénible. Le soir même de l'arrivée des Astalion, Thérèse observa après le dîner. « On se couche maintenant. Cela va vous changer. On se couche de bonne heure ici. Vous voyez que la vie de Paris n'est pas tout à fait ce que vous pensiez. » Parfois, Madame Coquerel prenait sa sœur à part et lui soufflait dans l'oreille. « Dis à ton fils qu'il se tienne mieux. À midi encore, il s'était assis avant nous à table. On dirait que tout lui est permis, qu'il est ici chez lui. Tu verras que Benjamin va se fâcher. J'ai beau tout lui cacher, il remarque. Quand on est chez les autres, on a un peu plus de délicatesse. » Benjamin, lui, faisait de même avec Nicolas. « Votre mère s'imagine peut-être qu'elle se trouve à l'hôtel. Vous devriez lui faire comprendre qu'il n'y a pas qu'elle à servir. La bonne ne peut pas tout faire. » Ces observations se faisaient de plus en plus fréquentes. Quand les Coquerel sortaient, ils fermaient toujours les armoires à clé et, à travers la porte de la chambre des Astalion, criaient de manière à laisser entendre qu'ils ne tenaient même pas à les voir. « Arrangez-vous pour déjeuner dehors. Nous ne serons pas là. La bonne a sa lessive à faire aujourd'hui. » Si, par hasard, Nicolas arrivait en retard au repas, Thérèse lui disait « Mais nous avons cru que vous ne viendriez pas. » Un soir, comme elle se trouvait seule avec son fils, Madame Astalion éclata. « Non, je ne veux plus rester. C'est un enfer ici. » Nicolas, qui s'était disputé la veille avec sa tante, approuva. « Cela ne peut plus durer. Ils ne peuvent pas nous voir. On leur montrera que nous n'avons pas besoin d'eux. Écoute-moi, Nicolas, il faut que nous allions demain voir Charles. Il a un autre caractère que cela. Nous lui expliquerons notre situation. Il fera peut-être quelque chose pour nous. Si on reste ici, dans un mois, on ne sera pas plus avancé. Et il faut absolument que tu trouves une place. Sans quoi, je ne sais pas ce qui va se passer. Si cela peut te faire plaisir... » Comme « je ne dis pas le contraire », c'était une des expressions favorites de Nicolas. « Mais tu me dis cela depuis une semaine et chaque fois tu remets au lendemain. » « Nous irons demain, je te le jure, maman. » « Allons, ne jure pas, Nicolas, tu jures n'importe quoi. On ne sait jamais si on peut compter sur toi. »